Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Vie et mort de Michael Jackson, l'un des plus grands génies de la musique contemporaine. À quoi reconnaît-on une icône ? Il suffit qu'on mentionne le nom de Michael Jackson et en chacun de nous s'impose une image immédiate. Des lunettes noires, un gant blanc, un blouson de cuir et un pantalon trop court. Puis des gestes, une marche lunaire et à l'envers, une main qui attrape l'entrejambe. En 50 ans, Michael Jackson est devenu un mythe contemporain. Artiste surdoué, performeur inoubliable, le chanteur américain a révolutionné la musique pop et battu tous les records. Il a été sans doute la dernière star universelle. Mais comme souvent dans ces histoires, ce succès s'est accompagné de démesures et de folies, de ses transformations physiques à ses errements psychologiques, en passant par les accusations de pédophilie. Le statut de cette idole a été écorné jusqu'à sa mort, brutale, insupportable, à 50 ans seulement, en juin 2009. À travers la trajectoire fulgurante de Michael Jackson, plusieurs époques se succèdent. Celle de la musique noire conquérante des années 70, de l'apogée du show business dans les années 80, de la fin d'un modèle au tournant des décennies 90 et 2000. Homme de tous les paradoxes, Michael Jackson raconte une histoire américaine entre rêve et cauchemar, entre ombre et lumière. L'histoire d'un système violent, capable dans un même mouvement de vous porter au firmament et de se délecter de votre chute. En seconde partie de l'émission, nous recevrons Olivier Cachin, journaliste spécialiste de la musique américaine et notamment du hip-hop. Il est l'auteur d'une biographie sur le chanteur intitulée Michael Jackson, Pop Life, aux éditions Alphée. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui Enzo Laborie.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Mercredi 24 juin 2009. Il est 23h30 ce soir-là quand Michael Jackson, 50 ans, rentre chez lui au manoir de Halfway Hills sur Sunset Boulevard à l'ouest de Los Angeles. Le chanteur est épuisé. Il revient de 4 heures de répétition. Depuis plusieurs mois, il se prépare d'arrache-pied pour ce qui doit être son grand retour après des années d'absence, une série exceptionnelle de 50 concerts. Michael Jackson paraît faible, très maigre. Il est surtout terriblement angoissé par son show à venir. Est-il encore capable de tenir le rythme, d'enchaîner les concerts, de chanter et de danser pendant 2 heures? Du coup, malgré la fatigue, il ne parvient pas à dormir. Alors, à 4 heures du matin, il appelle son médecin personnel. La star lui demande de l'aider. Le médecin s'exécute. Il lui fait une injection. La nuit passe, mais peu avant midi, le lendemain, jeudi 25 juin 2009, au cœur, Michael Jackson s'arrête de battre. Oui, son cœur s'arrête de battre. Son médecin tente de le ranimer. Et à midi 20, on se décide à appeler le SAMU 30 minutes après le début de l'arrêt cardiaque.
Ici les urgences, quel est votre problème ?
Monsieur, j'ai besoin d'une ambulance le plus vite possible. Nous avons ici un homme qui a besoin d'aide, il ne respire plus. Nous essayons de le réanimer, mais il ne respire toujours pas.
D'accord, quel âge a-t-il ?
Il a 50 ans.
50 ans, ok. Il est conscient, il ne respire plus ?
Oui, il ne respire plus.
D'accord, il n'est pas conscient, il ne respire plus.
Non, il n'est plus conscient. Monsieur, s'il vous plaît.
Oui, nous sommes déjà en route. Je vais vous aider par téléphone. Quelqu'un est-il à côté de lui?
Oui, nous avons ici un médecin personnel.
Ah, vous avez un médecin?
Oui, mais la personne ne réagit pas au massage cardiaque.
Avez-vous vu ce qui s'est passé?
Non, seul le docteur a vu, monsieur, mais s'il vous plaît, venez vite.
Nous sommes en route, nous arrivons.
Réanimé, il ne l'est pas. À 13h15, Michael Jackson est transporté à l'hôpital. Quelques minutes seulement après ce transfert, TMZ, un site internet spécialisé dans les scoop people, donne l'information. Après une heure de tentative infructueuse pour sauver le chanteur, les médecins prononcent son décès à 14h26. 20 minutes plus tard, TMZ annonce la nouvelle. Alors l'info se répand comme une traînée de poudre. C'est finalement le frère de Michael, Jermaine Jackson, qui depuis l'hôpital confirme.
Oh mon Dieu.
This is hard.
C'est dur.
My brother,
mon frère, Le légendaire roi de la pop Michael Jackson est mort ce jeudi à 14h26, probablement d'une crise cardiaque à son domicile.
Ce 25 juin 2009, le monde reste suspendu à la nouvelle. Les chaînes d'information en continu diffusent en boucle les images du corps de la star, allongé sous un drap blanc sur son brancard, évacué par hélicoptère. L'émotion est immédiate et mondiale. De Los Angeles à Libreville, en passant par Moscou et Buenos Aires, des personnes se réunissent spontanément dans les lieux symboliques des capitales. Madonna, Diana Ross, Beyoncé, Paul McCartney, les stars d'hier et d'aujourd'hui, expriment l'une après l'autre leur tristesse. Et les personnalités politiques suivent. Internet donne une ampleur supplémentaire à cette émotion mondiale. En quelques minutes, les serveurs de Google explosent. Plus de 5000 messages à la minute mentionnent le chanteur sur le réseau social Twitter. La révolte iranienne passe aux oubliettes. En quelques heures, les disques de Michael Jackson occupent les 15 premières places des ventes sur Amazon. Des millions de fans inondent YouTube de vidéos hommages. Ce jeudi 25 juin 2009, la musique est orpheline. Celui qu'on appelle le roi de la pop a disparu. Et pour quelques jours, Michael Jackson retrouve sa place de numéro 1. Inévitablement, les questions surgissent. Pourquoi cette disparition soudaine? Qui sont les responsables? Comment annuler les concerts et gérer l'héritage de l'artiste? Mais s'exprime aussi un sentiment, comment dire, une gêne, oui, un trouble sous-jacent. À l'image de la prise de parole tardive du président Obama, qui salue une icône avant de préciser que certains aspects de sa vie étaient tristes et tragiques, comme pour rappeler le parcours sinueux de Michael Jackson, qui est passé en 40 ans du toit du monde aux affres judiciaires, du rôle de roi à celui de bouffon. Retour sur l'ascension et la chute de la légende Michael Jackson.
Well, most of my songs are fast.
La plupart de mes chansons sont rapides. Quand je chante, cela veut dire quelque chose. Je ne chante pas si cela n'a pas de sens.
Hiver 1969, ça saute aux yeux et aux oreilles. Lila, au premier plan, juste devant les quatre autres garçons. Du haut de son 1m50 et de sa coupe afro, il irradie la scène. Sa voix, ses pas de danse, comment ne pas succomber à Michael Jackson, 10 ans tout juste et chanteur leader de Jackson 5. Avec ses frères, Tito, Jermaine, Jackie et Marlon, il occupe la tête des ventes américaines dès leur premier album. Leur soul, boosté au rythme funk et afrobeat, réalise le meilleur démarrage de l'histoire. Les Jackson 5 ont signé chez le célèbre label afro-américain de Detroit, la Motown. Depuis 10 ans, le Motown Sound, le son de la jeune Amérique, comme le promet le slogan, inonde les États-Unis de ce genre de musique avec les Temptations, les Supremes ou encore Marvin Gaye. À la tête de Motown, Berry Gordy, il n'a qu'un objectif. Après les droits civiques, les Noirs doivent conquérir la culture. Et dans cette quête, les Jackson 5 tombent à pic. La rencontre avec les frères Jackson a lieu fin 68. Aux manettes, Joseph Jackson, le patriarche de cette famille de 9 enfants, originaire de Gary, dans l'Indiana. Ouvrier dans la scierie, ancien guitariste amateur, il décide de faire de ses garçons des stars, genre Joe Kennedy et ses fils, avec comme valeur pivot le travail et la rigueur. Jusqu'à l'extrême, d'ailleurs, comme le confiera Michael Jackson quelques années plus tard, en 1993, au cours du Oprah Winfrey Show sur CBS.
Il y a beaucoup de tristesse dans ma vie passée. Vous comprenez ? À propos de mon père, de toutes ces choses, cela me rendait vraiment, vraiment triste.
Donc il vous humiliait et il se moquait de vous ?
Oui.
Il vous a déjà frappé ?
Oui, il l'a fait.
C'était difficile d'endurer cela et de continuer les performances sur scène.
Oui.
Pourquoi il vous frappait?
Parce qu'il me voyait. Il voulait que je voie, enfin, je suppose, qu'il me prenait pour un enfant gâté. Certains appelleraient ça de la discipline stricte. Il était vraiment strict, dur. Juste avec un regard, il vous faisait peur.
En quelques mois, les 5 garçons deviennent un véritable phénomène de société. Leur 2e tube, ABC, déloge Let It Be des Beatles en tête des charts. Quelle transgression! Une série de dessins animés intitulée The Jackson 5 Show raconte leur vie. Et ces enfants-là deviennent des stars du jour au lendemain. Tout au long de cette ascension, leur père Joe Jackson ne desserre pas l'étreinte. Bête de somme, les garçons enchaînent les dates et les tournées, sans repos. Michael, lui, est raillé par son père qui moque son physique et notamment son gros nez. Joe Jackson vole l'enfance de son fils et profite de ses dons exceptionnels, il est vrai. Tous le savent, la vraie star du groupe, c'est Michael. On commence alors à lui concocter des projets en solo. Après 6 ans de succès, en 1975, un différend avec Berry Gordy pousse les Jackson 5 à quitter la Motown pour rejoindre Epic Records. 2 ans plus tard, Michael Jackson rencontre sur le plateau du film The Wiz, une comédie musicale réalisée par Sidney Lumet, un certain Quincy Jones, la légende du jazz qui a travaillé avec Frank Sinatra. Michael Jackson est à une époque charnière de sa carrière. Il a déjà 10 ans d'expérience et a envie d'autre chose, de composition, de création. Le courant passe bien entre les deux hommes. Il s'enferme en studio et au printemps 1979, Michael apparaît en costume noir, nœud papillon, dans un murmure.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that.
Première collaboration et premier coup de maître entre Quincy Jones et Michael Jackson. Le génial producteur et le jeune prodige trouvent la formule magique, un mélange de tube groove disco géniaux et de ballades. Le disque Off the Wall, Loin du mur, est l'album de l'émancipation pour l'artiste, celui d'une rupture familiale, professionnelle et musicale. 18 millions d'exemplaires vendus, 4 titres dans le top 10, rien ne résiste au chanteur. Enfin si, certaines barrières. Il ne reçoit qu'un seul Grammy Award, les célèbres récompenses musicales américaines, et surtout, le magazine Rolling Stone lui refuse sa couverture au prétexte que les artistes noirs se vendent moins bien. Michael Jackson encaisse. Il se remet au travail et prépare son chef-d'œuvre, celui avec lequel il va conquérir le monde. Trois ans après le succès d'Off the Wall, Michael Jackson retourne en studio avec Quincy Jones le 14 avril 1982 pour préparer son prochain album. Pendant 8 mois, l'histoire s'écrit. Dans Thriller, tel est le titre du disque, les deux hommes repoussent encore la fusion entre les styles et les genres de la musique pop, du disco au rock, en passant par le funk. Le 30 novembre 1982, la tornade est lancée. 37 semaines au sommet des hit-parades. 7 des 9 chansons sont des tubes. En un an, Thriller devient l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Record toujours d'actualité. Plus de 50 millions d'exemplaires sont écoulés à travers le monde. Michael Jackson abolit les dernières barrières. Il rafle 8 Grammy Awards et devient le premier musicien noir à conquérir avec une telle ampleur le public blanc. Et ce n'est pas tout. Le marché du vidéoclip en est à ses balbutiements, Michael Jackson le révolutionne. Pour le titre éponyme de l'album Thriller, il embauche le réalisateur John Landis et décide de confectionner un court-métrage de 14 minutes. La chanson n'est plus qu'un prétexte, l'image est la vraie finalité. Avec fracas, il s'ouvre les portes des télévisions et devient le premier chanteur afro-américain à être diffusé sur MTV. Reste son coup de génie. La scène se passe le 25 mars 1983, à Pasadena, en Californie. Une immense soirée retransmise en direct à la télé célèbre les 25 ans de la Motown. Malgré les relations tendues entre Berry Gordy et les Jackson, la fête ne peut pas se passer sans Michael, ce serait comme une tarte aux pommes sans pommes. Ce dernier hésite, puis finit par accepter. Alors la lumière s'allume, les premières notes Billie Jean retentissent, The Show Must Go On. Don't mind, but do you mean? Pendant 4 minutes, le temps s'arrête. La boucle entêtante et somptueuse de Billie Jean paraît infinie. Michael Jackson est là, seul, au centre de la scène. Un chapeau, une veste et un gant blanc perlé de diamants. Son pantalon lui arrive juste au-dessus des chaussettes pour bien distinguer ses pas de danse. Alors, il enchaîne les mouvements, ses jambes paraissent détachées du reste du corps, il donne l'impression de voler. Vers la fin de la chanson, ce n'est plus une impression, il se met de profil et entame un geste surréaliste. Oui, il marche vers l'arrière. Michael Jackson défie les lois de la pesanteur. S'il n'a pas inventé ce pas, il lui donne un nom, le moonwalk. L'icône Jackson vient de créer son personnage, son costume et sa signature. À la fin de la soirée, le grand Fred Astaire lui enverra un télégramme. « Merci, lui dit-il, j'attendais un successeur et vous voilà. » Michael Jackson est au sommet. Même le président Ronald Reagan, qui n'est pas spécifiquement le miroir de la jeunesse, se doit d'apparaître à ses côtés quelques mois plus tard.
Well, isn't this a thriller? I'm delighted to see all of you here today.
Je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui. Je n'ai pas vu tant de monde depuis mon retour de Chine. Je pensais que vous veniez me voir. Mais je sais pourquoi vous êtes là. Pour voir l'une des plus talentueuses, des plus populaires vedettes du monde de la musique, Michael Jackson.
I'm very, very honored. Thank you very much, Mr. President. And Mrs. Reagan.
Because last night he came home with another armload of hardware.
And the winner is... Billie Jean Michael Jackson!
Off the wall, Michael Jackson.
Michael Jackson.
Les années 80 sont celles de Michael Jackson. Après le raz-de-marée Thriller, il enchaîne en 87 avec l'album Bad, dernière collaboration avec Quincy Jones. Un disque plus rock qui n'atteint pas les records de Thriller, mais qui se vend tout de même à plus de 45 millions d'exemplaires. La tournée qui suit est démentielle. Le chanteur parcourt la planète pendant 2 ans. Partout où il passe, on assiste à des scènes de liesse. Michael en avait déjà eu un avant-goût du temps des Jackson 5, mais là, c'est un niveau supérieur, car il fédère tous les publics, des enfants aux parents, de tous les genres et de toutes les communautés. Fin 80, début 90, il est à son apogée. Le secteur du disque aussi. Le chanteur américain restera comme le modèle absolu de l'industrie musicale, comme si l'un et l'autre étaient liés. Alors, pour lui, comme pour le disque, la chute n'en sera que plus dure.
We'll be right back. Ladies and gentlemen, the 1989 Heritage Award and Sammy Davis Jr. Award recipient, and in my estimation, the true king of pop, rock and soul, Mr. Michael Jackson.
Mais qui est Michael Jackson? Au début des années 90, la question est sur toutes les lèvres. L'homme est lointain, distant, discret, toujours caché derrière ses lunettes de soleil ou un masque médical. Il ne donne aucune interview. Un personnage trouble qu'il construit jusque dans sa chair à coups de chirurgie esthétique. Son nez, sujet de moquerie de son père, est opéré à plusieurs reprises et s'affine. Ses yeux, ses cheveux, ses traits, tout son visage se redessine. Sa couleur de peau, enfin, s'éclaircit année après année. L'ancien Michael, celui de Jackson 5, celui du père violent, s'efface pour laisser place à un homme nouveau, plus féminin et surtout plus blanc. Que veut dire cette décoloration de la peau? Renierait-il ses racines afro-américaines? Pour le premier clip de son nouveau disque Dangerous en 1992, Michael Jackson choisit la chanson pour le moins explicite Black or White. À la fin de la vidéo, on voit des visages de toutes les origines, de tous les continents se fondre dans celui du chanteur grâce à une nouvelle technologie vidéo, le morphing. Formidable métaphore en tout cas de ce que devient Michael Jackson, une icône universelle derrière laquelle disparaît sa propre personnalité. Ni noir, ni blanc, ni homme, ni femme. Mais l'élément peut-être le plus troublant, c'est son caractère enfantin. Il acquiert notamment un ranch sur un terrain immense de Californie. Le nom qu'il donne au lieu est sans équivoque, Neverland, comme dans Peter Pan, dont il semble souffrir du syndrome, un monde voué à la jeunesse, totalement démesuré, avec des parcs d'attractions, une salle de théâtre, un zoo, où il accueille de nombreux enfants malades ou déshérités. Lors de ses sorties publiques, Michael Jackson apparaît souvent avec un ou plusieurs gamins à ses côtés. Une attitude étrange qui, le 17 août 1993, prend une toute autre dimension. Les parents de Jordan Chandler, un garçon de 13 ans souvent aperçu avec le chanteur, portent plainte pour abus sexuels sur mineurs. Michael Jackson est arrêté. Dans la foulée, il adresse un message vidéo à ses fans.
Il y a beaucoup de déclarations dégoûtantes dites récemment à propos d'allégations sur des comportements inappropriés que j'aurais eus. Ces déclarations à propos de moi sont totalement fausses. C'est ce que je soutiens depuis le tout début. J'espère une fin rapide à cette expérience horrible à laquelle j'ai été soumise. Je ne suis pas en mesure de répondre à toutes les fausses allégations qui ont été faites contre moi. Depuis, mon avocat m'a conseillé, et ce n'est pas le lieu pour faire cela. Je dois dire que je suis particulièrement en colère à cause de toutes ces allégations relayées par ces horribles médias. Toutes les opportunités des médias pour disséquer et manipuler ces allégations pour créer leurs propres conclusions. Je vous demande à tous d'attendre et d'entendre la vérité avant de me condamner. Ne me traitez pas comme un criminel, car je suis innocent.
Malgré une corrélation entre les descriptions du jeune garçon et les observations des policiers pendant l'audition, le procès de Michael Jackson n'aura pas lieu. Les parents de Jordan Chandler retirent leur plainte contre une somme de 20 millions de dollars versée par l'artiste. Mais le mal est fait. Plane désormais au-dessus du chanteur un soupçon ineffaçable. Michael Jackson et son entourage le savent, il doit absolument redorer son blason. En d'autres termes, il doit se raconter. Première étape de la reconquête, il donne des interviews où il parle de son enfance difficile, de sa maladie de peau, le vitiligo qui expliquerait son blanchiment de l'épiderme. Des numéros d'exhibition extrêmes dont l'Amérique a le secret. Deuxième étape, clarifier sa sexualité. En mai 1994, Michael Jackson se marie. Pas avec n'importe qui, puisqu'il s'agit de Liza Marie Presley, la fille du King Elvis. Oh, tout ça paraît bien factice. Deux ans après d'ailleurs, il divorce. Enfin, après l'époux, il endosse le costume du père. Michael se remarie avec une infirmière inconnue du grand public, avec laquelle il a deux enfants par insémination artificielle. Il en aura un troisième, en 2002, avec une mère porteuse. À l'image de son physique qui se transforme année après année jusqu'à la déformation, Michael Jackson, père, se rêve en post-humain défiant les lois de la vieillesse et de la nature. Mais le doute ne se dissipe pas. Au tournant des années 90-2000, on parle plus de lui pour ses frasques que pour sa musique, qui d'ailleurs se vend moins bien. Ses albums History et Invisible sont loin du niveau des précédents. La magie n'opère plus. Tout bascule de nouveau en 2003. Michael Jackson accepte une longue interview avec Martin Bashir, un célèbre journaliste. Bashir suit Michael Jackson pendant de longs mois. Au cours d'une séquence, on voit le chanteur chez lui à Neverland. À ses côtés se tient Gawin Arvizo, un jeune garçon. Interrogé par Martin Bashir, Michael Jackson confirme qu'il dort bien avec des enfants et ne voit pas en quoi c'est un problème. Quelques jours seulement après la diffusion du documentaire, l'information fait la une de l'actualité.
L'image fait la une depuis hier soir des médias américains. Michael Jackson arrive chez le shérif de Santa Barbara, menottes au poignet. Il y sera détenu une heure à peine, le temps qu'on prenne sa photo, ses empreintes digitales, le temps surtout que le chanteur garantisse une caution de 3 millions de dollars pour être libéré. Il a dû aussi entendre les charges qui pèsent contre lui, accusé d'avoir commis dans sa propriété des actes lubriques et de luxure sur un enfant de moins de 14 ans. Le chanteur a désormais rendez-vous au tribunal, le 9 janvier, pour son inculpation officielle.
Et comme 10 ans auparavant, Michael Jackson s'empresse de donner une interview pour clamer son innocence.
C'est totalement faux. Plutôt m'ouvrir les veines que de faire du mal à un enfant. Je ne ferai jamais de mal à un enfant. C'est totalement faux. C'est révoltant.
C'est acceptable de partager votre lit avec un enfant ?
Bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas ? Si vous êtes pédophile, si vous êtes violeur, si vous êtes assassin, ce n'est pas une bonne idée. Mais je ne suis rien de tout cela. Je n'ai pas dormi dans le lit avec l'enfant, et même si je l'avais fait, il n'y aurait pas de problème.
Le chanteur le sait, cette fois, il n'échappera pas au procès. Celui-ci s'ouvre au début de l'année 2005. Plus de 2200 journalistes du monde entier sont accrédités. Des milliers de fans se réunissent chaque jour devant le tribunal de la petite commune de Santa Maria pour soutenir leur idole. Pendant 5 mois, plus de 90 témoins sont entendus et la vie du chanteur est décortiquée dans les moindres détails. Jour après jour, on voit Michael Jackson s'affaiblir, physiquement marqué par l'épreuve. Alors que tout l'accable, ses avocats ne lâchent rien. Au moment du témoignage de la mère du jeune garçon, ils démontent l'accusation et remettent en cause la version des parents. Le 13 juin 2005, le verdict est prononcé. Et contre toute attente...
Non coupable, le premier d'une longue série. Et à chaque fois que le mot est prononcé à l'intérieur du tribunal, à l'extérieur c'est une explosion de joie chez les femmes. Les jurés n'ont donc retenu aucune charge qui pesait contre Michael Jackson. Ni l'abus sexuel sur mineur, ni la tentative d'enlèvement. Pour ceux qui l'ont soutenu tout au long des 4 mois de procès, ce n'est que justice.
Super content, on a gagné, finalement c'est fini. Maintenant il va prendre soin de lui, il va prendre soin de sa famille. Et nous on a soulagé.
Michael Jackson n'a pas bronché à la lecture du verdict. Pas un geste, pas un sourire. Et il a quitté aussitôt le tribunal sans faire la moindre déclaration. Entouré de sa famille, il a simplement salué ses fans, comme il l'a fait tous les jours durant le procès. Entre la parole d'un enfant et celle d'une star, ils ont tranché pour la star, quel que soit son mode de vie, quelle que soit son image.
Michael Jackson sort donc libre d'un procès fleuve qui a tenu en haleine les États-Unis pendant plusieurs mois. À partir de là, il disparaît. On l'aperçoit un temps au Bahreïn, puis en Irlande et à Las Vegas. Mais dans sa fuite, il est rapidement rattrapé par un autre problème, l'argent. Michael Jackson est plongé dans un gouffre financier. Il était pourtant à la tête d'une fortune colossale, oui. Mais voilà, il gère son argent comme il vit, en dehors de toute réalité. Depuis le début des années 2000, ses dépenses ne sont plus couvertes par les ventes de ses disques. L'industrie musicale est amorphe, frappée de plein fouet par la révolution numérique. Acculé, Michael Jackson doit trouver une solution. Elle lui est proposée par une société promoteur de spectacles, AEG Live. Son idée, c'est d'organiser un grand retour sur scène après des années d'absence. Le chanteur, âgé de 50 ans, fatigué, amaigri, hésite. Mais il n'a pas le choix. Alors il accepte. Le 5 mars 2009, c'est lui-même qui vient annoncer la nouvelle devant une foule de fans réunis à Londres.
Ready for this? You have waited long enough. 750 million album sales, 13 Grammys. London welcomes the King of Pop, Mr. Michael Jackson.
Je vous aime tellement. Je vous aime tellement.
Thank you all.
Merci à tous.
This is it. This is it. But I just want to say that.
Je veux juste dire que.
These will
cela
be
va être
my final
mon
show
dernier show.
Performances in London.
Ici, à Londres.
Okay, and I'll see you in July.
Je vous verrai en juillet.
And I love you.
Je vous aime.
Dix concerts étaient prévus. Finalement, le promoteur insiste pour qu'il y en ait 50. Les 750 000 places mises en vente s'arrachent en 8 heures. La Jackson Mania est toujours là. Quelques semaines avant le début des premiers spectacles, les dates sont repoussées. La rumeur enfle en effet sur l'état de santé du chanteur. En coulisses, les personnes qui travaillent à ses côtés décrivent un Michael Jackson motivé, travailleur, pointilleux mais fragile. Le 25 juin 2009, quelques semaines avant le premier concert, tombe la pire nouvelle qui soit. Michael Jackson meurt. Le grand retour du roi de la pop n'aura pas lieu. Il y a d'abord le temps du deuil. Les funérailles sont organisées le 7 juillet 2009. Une cérémonie retransmise en Mondiovision au Staples Center de Los Angeles. Un moment de courte durée. Fin août, les résultats de l'autopsie sont rendus publics. La mort est due à une intoxication aiguë au propofol, un produit anesthésique interdit en dehors du milieu hospitalier. Michael Jackson en était dépendant depuis de nombreuses années. Tous les regards se tournent alors vers le médecin du chanteur, Conrad Murray. Son père, écarté du testament, monte au créneau et accuse ouvertement le médecin de son fils. Il accuse aussi l'entreprise AEG d'avoir poussé le chanteur à assurer trop de dates. Pour la famille et les milliers de fans, il faut un coupable. Le procès du docteur Conrad Murray s'ouvre 2 ans après la mort de l'artiste, en 2011, devant la Cour supérieure de Los Angeles. Les débats sont filmés et retransmis en public. L'ombre de Michael Jackson plane, évidemment. On découvre alors un homme hypochondriaque, dépendant de nombreux médicaments, en proie à des angoisses et à des problèmes physiques constants. Quant au docteur Murray, on met en lumière sa négligence, ses erreurs et surtout l'administration fatale du produit propofol. Le 29 novembre 2011, le médecin est condamné à 4 ans de prison pour homicide volontaire. Il fallait un coupable, le voici. En 40 ans, Michael Jackson a marqué les époques successives de son empreinte, pour le meilleur et pour le pire. Mais regardez le documentaire intitulé « This is it » qui montre les dernières répétitions de la tournée qui n'aura pas lieu. Regardez comme à sa guitariste, il reproduit avec la voix le son exact qu'il veut entendre sortir de la guitare. Entendez les louanges des jeunes danseurs qu'il a recrutés, qui sont à genoux devant le maître. Voyez enfin comment à 50 ans, dans sa veste bleue scintillante, il redevient sautillant aux premières notes de Billie Jean et admirez son élégance, verser une larme de dépit ou de colère face à la catastrophe du 25 juin 2009 qui nous a peut-être privés de ce qui allait être, à Londres, le plus grand spectacle ici-bas.
This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel grand. This love I can feel, and I know, yes, for sure, it is real.
And you said
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Vie et mort de Michael Jackson, avec notre invité Olivier Cachin. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Journaliste spécialiste de la musique américaine et surtout auteur d'une biographie sur Michael Jackson intitulée Michael Jackson Pop Life aux éditions Alphée. Bon, j'imagine que vous avez découvert Michael Jackson avec les Jackson 5, comme tout le monde. Si tel est le cas, est-ce que vous avez décelé ce gamin de 10 ans? Est-ce que vous avez dit celui-là, il va être... vous étiez trop jeune peut-être?
Bah, disons qu'en fait, moi, j'ai vraiment... En fait, c'est curieux parce que j'ai découvert réellement Michael Jackson avec ses premiers albums avec les Jackson. Non pas avec les Jackson 5, parce qu'effectivement, j'étais un petit peu petit, mais avec les Jackson, c'est-à-dire tout ce côté très... à l'époque du disco. Et j'avais un rapport très amour-haine, parce qu'à l'époque, moi, j'étais plutôt dans la musique punk, dans les années 70, donc c'était à la fois genre le disco était la chose horrible qu'il fallait surtout pas écouter, mais en même temps il y avait une telle puissance qu'on ne pouvait pas ne pas, c'est-à-dire que donc on disait c'est nul et en même temps on écoutait, vous voyez. Et c'est vrai que après évidemment quand est arrivé sa vraie carrière solo avec Off the Wall, je dis ça vrai parce qu'il avait déjà fait des albums sous le nom de Michael Jackson chez Motown, mais en fait c'était comme les albums des Jackson 5, des albums qui étaient complètement contrôlés et pilotés par la maison de disques. Donc avec Off the Wall en 79, là on découvre vraiment quelque chose qui est unique, c'est-à-dire quelqu'un qui entre parenthèses ne devrait pas exister, parce que vous savez, les enfants stars, le problème c'est que c'est généralement des tragédies dès qu'arrive, même pas l'âge adulte, mais l'adolescence.
Oui. Regardez le fils de Lennon par exemple,
le premier, hein. oui,
Julian.
Et puis bon, il y a aussi quelque chose qui est terrible, mais que les gens, vous le disiez en sous-texte dans votre chronique, c'est que les gens aiment détruire les idoles, et c'est vrai que quand on a été tellement haut à un âge aussi jeune, ce que généralement fait le public, c'est vous rejeter quand vous essayez de faire une carrière après. Quand il fait Off the Wall, il est donné perdant. Faut quand même savoir que tout ce qui paraît évident aujourd'hui, à savoir c'est une superstar qui a un succès mondial, les gens disaient mais comment vous voulez faire un disque sérieux avec un gars qui a été en dessin animé à la télévision américaine, qui n'a pas de crédibilité, parce que c'était, à l'époque, on le voyait plutôt comme une marionnette. C'était la marionnette de Berry Gordy.
Alors justement, la Motown, c'était quoi le pouvoir de cette maison de disques, cette industrie à l'époque?
On l'a souvent dit, mais il n'est pas inutile de rappeler que Berry Gordy table son modèle sur la fabrication des voitures des usines Ford. C'est-à-dire que il a été visionnaire en ce sens. C'est-à-dire que lui, il voit un artiste comme un produit avec une chaîne de fabrication. Au début, il y a donc un matériau non dégrossi qui est l'artiste. Et puis à l'arrivée, à travers les différentes phases de fabrication avec des coach directors, des chefs d'orchestre, des musiciens, des arrangeurs, des profs de maintien, on a à l'arrivée un artiste complet, mais qui est fabriqué au sens noble du terme, parce que c'est quand même une musique merveilleuse, la musique qui sort des studios de Motown. Mais derrière, il y a toute une industrie qui ne laisse aucune chance à l'artiste pour s'exprimer dans ce qu'il veut faire lui-même. Rappelez-vous que Marvin Gaye, What's Going On, qui est sûrement son album le plus parfait, le plus émouvant, celui qui restera de toute sa carrière, c'est un album qu'au début, Berry Gordy ne veut pas, parce qu'il trouve ça trop déprimant. Parce que le contrôle qu'il a, c'est...
Berry Gordy, on le rappelle, hein, c'est le patron boss de Motown.
Voilà. Ouais. Lui, ce qu'il voulait, c'était vendre du rêve. Hein. C'était les Jackson 5, c'était la famille idéale, ce qui bien sûr était totalement faux. Vous rappeliez le rôle du père, qui était quand même un espèce de monstre, un traître de péplum. Mais l'image, c'était genre, voilà, on fait rêver les gens, regardez, cette bubblegum soul, comme on l'appelait, cette musique des Jackson 5, c'était fait pour faire rêver. Il fallait surtout pas qu'il y ait du contenu, fallait pas que Marvin Gaye évoque la guerre du Vietnam, il fallait pas que les Temptations fassent de la musique psychédélique, il fallait que tout ça reste très, très, comment dire,
produit contrôlé. De consommation.
Produit de consommation, exactement.
Alors, il y a quand même une rencontre importante avec Quincy Jones, hein, c'est vraiment le début de la grande carrière solo de Michael Jackson. Alors, c'est un producteur, on dit producteur, on devrait dire producteur, arrangeur, comme l'était George Martin pour les Beatles. Donc ça, c'est une rencontre vraiment, vraiment importante, puisqu'il en sort les deux grands chefs-d'œuvre, Fleder et Dad.
Rencontre importante, on peut d'ailleurs dire que cette trilogie avec Off the Wall, Thriller et Bad,
Wall,
c'est effectivement sûrement ce que beaucoup de gens considèrent comme l'apex de la carrière de Michael, mais c'est aussi le début justement d'une guerre avec la maison de disques, parce que au départ, personne ne veut de Quincy Jones. C'est un producteur de jazz, il a bossé avec Frank Sinatra, Count Basie. Qu'est-ce que vient faire un gars qui est estampillé jazz et big band dans une musique qui doit être du groove, du funk, de la soul? La maison de disque, elle ne veut pas de Quincy Jones. Elle dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce type-là? D'abord, il est vieux, il est dépassé. Ils veulent Léon Gamble, Ken Gamble et Léon Huff, qui sont Gamble et Huff, un duo de producteurs soul qui ont déjà bossé avec les Jackson. Ils veulent quelque chose qui est bankable, quelque chose qui, où on sait où on va. Là, la maison de disque dit, mais on ne sait pas où on va. Qu'est-ce qui va nous faire un album de jazz? Et puis quoi encore? Donc, ce n'est pas du tout évident au départ pour imposer Quincy Jones comme producteur et comme mastermind de cette trilogie, surtout que Quincy, c'est quand même quelqu'un de très exigeant, et c'est là où la chemistry, le lien entre les deux va vraiment passer, c'est que ce que va amener plus encore que le son, je pense, Quincy, c'est le dépassement de lui-même. Quelqu'un comme Michael, qui est déjà très exigeant, va être face à quelqu'un qui est encore plus exigeant que lui. Mmh. Et ça va le pousser à faire un disque qui va être effectivement l'idée qu'ils ont au moment où ils le font de la perfection musicale.
Vous avez quelque chose que je voudrais relever. À juste titre, vous avez parlé de musique groove, funk et soul. Je suis bien d'accord. Alors pourquoi appelle-t-on Michael Jackson le roi de la pop? Alors, ce sont les Beatles qui ont inventé la pop.
Parce que d'abord, il faut voir l'origine du nom dans cette compétition de Michael pour être toujours le premier. Le King of Rock, c'est Elvis Presley,
c'est sûr,
qui est blanc, alors que le rock est une musique créée par les Noirs.
Il faut la racine, le rappeler, c'est le blues.
Exactement. Racine, c'est le blues, ouais. Les rockers noirs n'ont pas le droit de passer à la télé ou à la radio au moment où Elvis Presley, Pat Boone et d'autres font les couvertures et passent en répétition, en grosse rotation. Donc lui, il dit, pourquoi lui, c'est le roi du rock? Et moi, je suis le roi de quoi dans ce cas? Je suis le roi de la pop, parce que la musique qu'il fait, et qui effectivement est basée sur la soul et le funk, mais qui déjà, dans le cas des Jackson 5, commence à s'ouvrir sur d'autres couleurs musicales, quand il va vraiment prendre son destin en main avec Off the Wall en 79, là, on est ailleurs. C'est pas un hasard si Paul McCartney est invité sur ce disque, et le sera sur le disque suivant aussi, Thriller. Parce que lui, ce qu'il a comme idée, Michael, c'est cette espèce de comment dire, il veut faire tomber le mur de Berlin des couleurs dans la musique, parce que rappelons quand même qu'aux États-Unis, jusque dans les années 60 et même les années 70, il y a un apartheid réel, hein, ouais. qui est physique pour les Noirs américains. On connaît tous ces images de la marche des libertés avec Martin Luther King, Malcolm X, où on voit à l'époque, il y a des toilettes pour les Noirs et des toilettes pour les Blancs, des places assises pour les Noirs dans les bus, et assises pour les Blancs, pardon, et debout pour les Noirs. Donc, il y a vraiment un apartheid. Et musicalement, c'est encore plus violent, parce que là, c'est très clair. Il y a les R&B charts et les pop charts. C'est-à-dire, il y a la musique pour les Noirs et la musique pour les Blancs. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que James Brown, qui est sûrement un des plus grands génies de la musique du XXe siècle, dont, évidemment, Michael s'est inspiré et qu'il admirait au-delà du réel, est quelqu'un qui n'a jamais eu de succès commercial jusqu'à la musique du film Rocky IV, dans les années 80, Living in America. Avant, c'est de la musique pour les Noirs. Et donc, c'est cette espèce d'apartheid-là. Vous rappeliez aussi, d'ailleurs, que Michael Jackson n'a pas eu la couverture de certains magazines parce qu'il était noir.
Oui.
Et il a fallu pour ça que sa maison de disques et son patron juif, Walter Yetnikoff, se battent. Pour aussi passer sur MTV, parce que le clip de MTV n'est pas passé au départ.
Ça veut dire que l'appellation, le label pop, blanchit sa musique, en quelque sorte.
En tout cas, il l'universalise, puisqu'il dit, voilà, je ne fais pas de la musique noire, je ne fais pas de la musique blanche, je fais de la musique pop, qui est par définition une musique de synthèse, qui, dans son cas, va justement englober toutes les sphères de la musique qu'il aime, lui, parce que c'est quelqu'un qui, même s'il a ses racines dans la soul, a évidemment des goûts musicaux qui vont beaucoup plus loin que ça, y compris jusqu'à la musique classique, dont on décèle des traces dans certains de ses morceaux.
Et il y a Beat It, évidemment, alors qui est un là pour le coup un morceau de rock, hein, avec ce riff endiablé d'Eddie Van Halen à faire pâlir le spécialiste des Stones en la matière, Keith Richards. Il aurait aimé faire ce riff-là. Là, on est dans le rock, là.
Et on est dans un morceau qui a failli pas se faire, parce que comme l'a raconté avec beaucoup d'humour Eddie Van Halen, dit quand on m'a appelé au début, j'ai entendu allô, c'est Quincy Jones, et il a dit attends, c'est gentil, super drôle, merci. Il a raccroché deux fois avant que quelqu'un d'autre le rappelle. Il dit non, mais c'était vraiment Quincy Jones là, et il voudrait que vous participiez au disque de Michael Jackson. Donc effectivement, alors il a aussi dit qu'il n'avait pas pris d'argent. Pour lui, c'était tellement énorme que il l'a fait en studio comme ça sur un feeling. Et c'est vrai que ce morceau-là, là on est vraiment au cœur de cette volonté. Aujourd'hui, ça paraît tellement banal parce que tout le monde aujourd'hui mélange toutes les musiques. Mais en 1982, quand il conçoit Thriller, enfin il commence à le concevoir un petit peu avant, c'est quelque chose qui n'existe que très très peu. Donc là-dessus aussi, il est visionnaire. Là aussi, il a cette vision d'un jour où la musique sera effectivement non plus réservée au noir ou au blanc, mais ira dans toutes les couleurs.
Alors comment expliquez-vous que deux rois comme McCartney et Michael Jackson, qui sont les deux rois de l'époque, s'allient pour une chanson que plusieurs effacent Say Say Say, qui est quand même une variété de... Enfin, sous-variété. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment de grands génies font un truc pareil, quoi?
Déjà, ils l'ont fait.
C'est pas subjectif ce que je vous dis, évidemment.
Non, mais déjà, ils l'ont fait parce que ça n'a pas été le cas de Prince et Michael Jackson, qui au début auraient dû collaborer aussi pour le morceau Bad et qui n'ont pas réussi à s'entendre parce que justement, ils étaient tellement chacun dans un monde à part qu'ils ne se sont pas rencontrés. Bah, dans le cas de Michael Jackson et Paul McCartney, bon, déjà, on peut dire qu'il y a eu quand même quelques beaux morceaux. The Girl Is Mine est quand même pas mal.
This Girl Is Mine est très, très beau.
Peut-être que c'est un petit peu moins qualitatif, mais au fond, pour moi, c'est au moins aussi bien que Ebony and Ivory, qu'il a fait avec Stevie Wonder.
Oui, et puis bon,
c'est de la variété, mais c'est de la variété de quand même assez haut niveau.
C'est vrai. Alors, vous avez parlé de Bad, justement. Michael Jackson s'affirme de plus en plus avec cette image dure de Bad. Hein, c'est la période chaîne, cuir noir. La tournée autour de Bad est incroyable. On va écouter une archive. C'est le tourneur français Pascal Bernardin qui en parle.
J'ai eu le plaisir de le rencontrer à Chicago, et c'est ce que tout le monde dit, c'est le fameux syndrome de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On voit dans la loge, on voit effectivement un être charmant, timide, à la voix faible, à l'air d'un être un peu fragile. Il a de très beaux yeux à la Bambi, un peu ouvert, grand. Et c'est vrai qu'il a l'air un peu d'un personnage de Walt Disney, un peu émerveillé. Il a une voix agréable, il dit bonjour poliment à tout le monde, mais il a même une petite voix qui a du mal à sortir. Et il arrive sur scène après, c'est un être agressif, sublime, dominateur, qui commande les musiciens, les danseurs, c'est pas le même, quoi. C'est la mystification de la scène.
On aime tellement Michael qu'on en accepte deux.
Bah oui.
Il y a deux visages, vraiment, chez lui.
Bah, toujours, oui. Je pense que dans tout artiste, il y a cette capacité de revêtir un masque et de devenir quelqu'un d'autre. Hein. Bon, oui, il l'a fait tout au long de sa carrière. Michael Jackson, de façon un peu différente, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a dit. Et là aussi, ça pourrait paraître bateau, mais toute sa vie montre que c'est vrai. Je n'ai jamais été heureux que sur scène. Et c'est vrai que cette façon qu'il a de communiquer avec le public, de vivre ses chansons, d'incarner, et avec une perfection. Vous rappeliez dans le film This Is It, ce moment où justement, il mime la guitare avec sa guitariste.
C'est extraordinaire.
Il y a aussi un moment où c'est, je crois que c'est Gret Feeling Games qui est au clavier, et lui, il lui dit, je veux que la chanson soit jouée exactement comme sur le disque. C'est l'exact contraire d'un musicien comme Prince, qui on l'a beaucoup opposé dans les années 80, qui lui fait des concerts de 3 heures, où il fait des reprises qui n'en finissent pas, des versions de Purple Rain de 15 minutes, des trucs impromptus. Michael, c'est la précision maniaque. Il faut absolument que ça corresponde à l'idée qu'il s'en est fait au départ sur le disque, et que sur scène, ça soit pareil. Donc il y a un côté machine de guerre où chaque millimètre est coordonné, où tout est... c'est un contrôle fric total. Et c'est vrai que ça se voit dans ses concerts.
Nous avons consacré 13 minutes à la part de lumière de Michael Jackson. On va consacrer les dernières minutes à sa part d'ombre, à la relation avec les enfants. Comment vous voyez ça, vous?
Moi, je pense... ça n'est que mon point de vue, mais je pense que c'est un être qui ne sait pas ce qu'est la réalité et par extension, qui ne sait pas ce qu'est la sexualité. Donc... s'il était réellement pédophile, on sait que les pédophiles sont des êtres quand même qui sont plutôt retors. Je ne pense pas qu'il aurait été stupide au point d'avouer, parce que quelque part, ce qui a causé sa perte dans le fameux documentaire de Martin Bachir est aussi quelque part pour moi une preuve de son innocence folle. Quand il dit, ben oui, je couche avec des enfants, on boit du chocolat au lait, c'est super. Jamais personne qui est un pédophile ne va dire une chose pareille. Au contraire, le fait qu'il le dise montre, je pense, d'abord son inadéquation par rapport au monde des adultes, qui effectivement va de façon chercher à le à l'abattre parce que cette amitié trouble avec les enfants est quelque chose qui n'est pas acceptable, surtout de la part d'un homme de 40 ans. Mais pour moi, je ne vois pas de sexualité à Michael Jackson, pas plus de réalité dans son mariage avec Lisa Marie Presley, qui effectivement, comme vous le disiez, est quelque chose qui ne m'apparaît pas comme très réaliste.
Ah, c'est fabriqué, oui.
Il suffit de voir le clip de You Are Not Alone où ils sont ensemble, on a l'impression qu'il a peur de la toucher, que c'est une poupée en porcelaine qui va se casser tellement il n'arrive pas à être sensuel avec elle. Mais je pense qu'avec les enfants, il y a effectivement un lien très fort, mais qui pour moi n'a pas l'ambiguïté qu'on voulait voir certains médias et une partie du public. Et le procès, le deuxième procès, celui qui a été jusqu'au bout et où il a été exonéré des 15 chefs d'accusation, montre qu'en tout cas, il n'y avait absolument aucune preuve tangible et que finalement, tout ça n'était que beaucoup de bruit pour quelque chose qui, à mon sens, n'avait pas lieu d'être, en tout cas sûrement pas avec cette intensité.
Ce qui paraît pathétique quand même, c'est ces transformations physiques, cette volonté de renier ses racines, mais en même temps, vous le disiez, victime aussi d'un système d'ostracisme. C'est quoi l'explication réelle de ces transformations physiques volontaires?
Maintenant qu'il est mort, il y a eu beaucoup de travaux et de recherches, et réellement, ce que certains croyaient être une excuse bidon, le vitiligo semble être une vraie réalité. Quand on voit ce que c'est que le vitiligo, c'est effectivement quelque chose qui est absolument terrible. Il y a un mannequin, d'ailleurs, je crois que c'est la marque Desigual qui avait utilisé un mannequin atteint du vitiligo. Quand on est une star pop, on ne peut pas se présenter avec ces taches de cette blancheur qui apparaît.
Les taches claires sur une peau noire.
Voilà.
Quoi.
Donc lui, il a maquillé son visage et son corps de façon à avoir l'air blanc. Mais je ne pense pas que, comme on l'a dit un peu rapidement à l'époque, c'était une façon de dire je suis blanc. D'ailleurs, la meilleure preuve étant que sur la fin de sa vie, notamment avec l'album Invincible et tout ce qui a suivi dans les quelques années qui ont précédé sa mort, il était de plus en plus radical. Et je pense que s'il avait continué à vivre, il aurait sûrement rejoint les thèses de certains activistes noirs dans le sens où il n'était pas du tout dans une logique d'adoucissement de la musique ou de sa personne. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui était fier d'être noir et qui l'a été jusqu'au bout, malgré effectivement cette maladie et beaucoup d'autres troubles et névroses dont il souffrait. Parce que faut quand même rappeler une chose, c'est qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Michael Jackson, mais il faut quand même aussi dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais de toute sa vie connu une seconde de normalité. C'était Catherine Hepburn, son amie, qui disait « Cet être formidable qui danse et chante comme un dieu et qui jamais une seconde n'a connu la vie normale d'un
et
être humain. »
Et la sérénité. Le docteur Conrad Murray a-t-il tué son patient ?
Alors, comme vous le disiez, il fallait un coupable. Hein. Je pense qu'il a été au minimum négligent. Et effectivement, le fait qu'on a su qu'il ait donné quelques coups de fil pendant que Michael était en train d'agoniser dans la pièce d'à côté montre que c'était sûrement pas un docteur très très sérieux. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est que quand on est aussi puissant que Michael Jackson, et ça n'a pas été le premier, Murray, il y a plein de gens qui se sont dit, moi je vais y arriver, je vais arriver à le guérir, je vais arriver à, il va m'écouter. Mais un patient aussi habitué à faire ce qu'il veut que Michael Jackson, on sait très bien que si un docteur lui dit, tu ne prendras pas ce médicament-là, il va en avoir 15 autres avec qui il va avoir des contacts pour avoir le médicament en question dans les 15 secondes. Donc le docteur Murray pensait contrôler la situation, on a bien vu qu'il ne contrôlait rien du tout. Mais après, je ne pense pas que ça soit le Machiavel, certains l'ont décrit comme quelqu'un qui a carrément conspiré pour tuer Michael Jackson. Là c'est exagéré, je pense que c'est un mauvais médecin. En tout cas, ça n'était pas le médecin qu'il fallait pour Michael.
Bien, en tout cas, merci infiniment Olivier Cachin pour vos informations et votre connaissance parfaite de Michael Jackson. Je rappelle que vous en êtes son biographe. Merci, au revoir.